Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
L'art de la guerre. L'art de la guerre. Nous préférons l'art de la guerre, de la gare, au prétendu art de la guerre, qui n'est que l'art de la bagarre de laquelle on ne revient guère. La guerre est à bien des égards un égarement au regard de la gare plus populaire et qui nous envoie à l'écart de la cité pour reprendre l'air. Le bon air pur, le plein air, le grand air, pas le grand terroir qu'on défend à coups de terreur, en brandissant en étendard, entendant d'heure en heure, les étrangers jugés barbares, ces batailleurs venus d'ailleurs, ces presque sosies, ces bâtards, au son d'éclairons éclaireurs, en fait d'éclaireurs, il est clair, qui s'assombrisse l'avenir, un coup d'éclat, en éclair, les proies n'ont qu'à bien se tenir. Et ils appellent ça de l'art. L'art de la guerre, c'est l'ardeur, à larder, rentrer dans le lard, hardiment, en moins d'un quart d'heure, de l'ennemi, zombie bizarre. Et ils appellent ça de l'arquebuse, de l'arbalète, de l'art de brûler des milliards pour transformer l'homme en squelette. Et ils appellent ça de l'art, l'art de la tuerie, du carnage, l'art d'Attila, l'art de Bayard, l'art de raser tous les villages, tous les visages sans détail, l'art du viol et l'art du pillage, l'art de la violence, aïe, aïe, aïe. L'art de la guerre, c'est l'horreur. Et en guise de conclusion, si vous voulez des chants d'honneur, ensemble, nous les chanterons. Pour que la paix soit à l'honneur, il n'y a qu'une solution, c'est de bannir les drapeaux, bannières, qui nous envoient au casse-pipe et sans façon et sans manière. Hourra, hip, 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 hip! Applaudissons l'art, mais abolissons l'armée. C'est urgent, et sans tarder. Mais faire de la guerre un art, vraiment, ça ne manque pas d'air. Qui s'engage s'égare. Déjà dit à naguère, de Néron à Bijard. mercenaires, sicards, sicaires, sicours, sicourours, agissent sans égard et rien ne résiste et rien ne subsiste des foutus artistes pratiquant l'art triste. Voilà un poème de Yves Lecard que j'ai un peu manié à ma manière en le lisant, et qui me le pardonne. Mais qui a osé parler de l'art de la guerre? Qui ose encore considérer la guerre comme un art? Qu'est-ce que l'art? L'art fait appel à l'imagination, à la création, voire à la récréation. La guerre ne fait appel qu'à l'obéissance aveugle, à la destruction programmée, à la désolation ou massacre. Où est l'art? L'art de tuer, l'art de détruire, l'art de démolir. Il faut mieux lire des mots que démolir. Pour lire des mots pensés, des mots sensés, lire des mots intelligents, des mots qui font avancer. Et voilà, jackpot, la guerre spatiale à 6 ans. La Space Force US et l'état-major de l'espace de l'armée de l'air française datent de 2019. Télécommunications, guidage, GPS, imagerie satellitaire, interconnexion des services, sert à observer, surveiller et renseigner, avant tout, déploiement de soldats au sol. Le général Jérôme Bélanger dispose de 3 satellites CSO pour l'imagerie spatiale ROEM, qui veut dire renseignement d'origine électromagnétique, et 2 Syracuse de télécommunications militaires, les 10 SATCOM. La géolocalisation dépend du GPS américain. Alors le système français Galileo serait opérationnel en 2030. L'armée états-unienne utilise des missiles antisatellites à titre expérimental, source de débris tombant au hasard, de risque de réaction en chaîne. Sauf que les ressources rares de la Lune excitent les milliardaires. Exemple, Xi Jinping a fait manœuvrer Xizhang 21 à 40 000 km d'altitude pour placer une orbite cimetière à notre astronef pékinois. Les techniques de brouillage et d'écoute participent à l'arsenal de cette gigapollution spatiale. Les négociations sur la réduction de ces objets en révolution échouent, comme toutes celles visant à interdire tel ou tel type d'armes. Pour construire la paix, le désarmement unilatéral reste seul efficace, même s'il implique le licenciement massif des ouvriers et ingénieurs qualifiés de cette criminelle industrie spatiale. Au carnet de commandes bourré jusqu'en 2035. Le jugulaire Service National Universel. Le prix de patriotisme décérébré sera de 600 millions à 15 milliards d'euros, selon les options du Haut Commissariat au Plan et France Stratégie, dit le 5 mai 2025. Du service civil obligatoire au service militaire établi, avec des étapes de volontariat par classe d'âge, tout pour plaire aux fachos. Tremblez accro aux plateformes Yankee, vous ne pouvez même plus vous passer du digital. Avec Google s'ouvre la guerre pour monopoliser les connaissances, donc la puissance sociale. Cette mainmise sur l'intellect offre un pouvoir considérable aux GAFAM, gavés par la surveillance de l'activité des individus, pour vendre des prévisions et piloter les compartiments. Cette folie passe par la militarisation des infrastructures numériques, câbles sous-marins, réseaux de satellites. Voici l'ère du techno-féodalisme. Sauver la planète implique la décroissance, un engagement individuel à l'autosuffisance. Jet lag, décalé à fond, l'armée ruine la société, la non-puissance sauvera le monde. La décroissance, mai-juin 2025. Donc, en 14-18, l'État français a déboursé 160 milliards de francs pour grand carnage, s'endettant à plus de 150% du PIB. D'où les réparations, pillage de l'Allemagne vaincue pour 132 milliards de marqueurs. Ce délire économique de 3 ans du PIB allemand n'a pu se réaliser. La guerre laisse exsangue l'Europe, il ouvre un boulevard aux capitaux américains. Aujourd'hui, la puissance chinoise ne jette pas son argent dans des tueries de masse, mais accumule les réserves en devises qui, tôt ou tard, feront s'effondrer le dollar. Derrière les flux d'argent se cache l'énorme détournement de ressources vers l'armée, annonce le déclin de l'Occident. L'économie américaine est aux abois, la productivité chute malgré l'intelligence artificielle, 25% des Américains sont précaires. En France, américanisée depuis les années 60, l'effort militaire se poursuit au détriment de l'activité civile et de la santé. Macron, c'est des canons, pas des pensions. Sortir de l'irrationnel, achever l'armée, prendre le risque calculé de renoncer unilatéralement à la violence, vive l'Union pacifiste! Tres aires latino-americanos, une composition de Jean-Pierre Caritsch qui a été enregistrée par le quartetto Quartevella. Allons parler encore du livre « Dire non à l'armée en Israël ». Martin Barzilay, qui a été invité de notre émission déjà il y a quelques semaines, nous a fait encore un très beau livre avec des photographies, témoignages de réfugiés, de jeunes et moins jeunes qui disent non à l'armée israélienne en Israël. Donc... il y a plusieurs entrevues dans ce livre avec des témoignages assez poignants. Itamar Greenberg, de 18 ans, qui en 2024, il avait 18 ans, et qui, dans son témoignage, dit « J'ai fait une préparation militaire universitaire. En mars 2024, au terme de cursus, j'ai compris que je ne ferai pas l'armée. Itamar passe beaucoup de temps en Cisjordanie, où il fait de la présence protectrice pour les agriculteurs palestiniens. On avait parlé aussi de Noam Schuster Eliassi, qui avait 36 ans en 2023, dont son père avait déjà refusé de faire son service lors de la première intifada. objectrice cependant parce qu'elle avait grandi dans un milieu israélo-palestinien. Le rabbin de la commission qui devait l'envoyer en prison s'y opposa et elle fit un an de service civil. Michael Ferziv, de 28 ans, officier, je dis 28 ans en 2024, hein, lors de l'apparition du livre, officier, pense que si Israël a besoin d'une armée, il est critique de ce qu'elle fait aujourd'hui. Il avait déjà refusé de servir en Cisjordanie et c'est quand les Israéliens envahirent Rafah qu'il a encore exercé son droit au refus de tuer. Avner Wistiner, qui a grandi dans un kibbutz, a fait normalement son service militaire, mais après avoir visité les territoires occupés, il a pris conscience du comportement de l'armée israélienne avec les Palestiniens et a finalement refusé le service de réserve où il milite maintenant à l'ONG Combattants for Peace. Donc, ça, ce sont quelques témoignages qu'on peut retrouver dans le livre « Nous refusons dire non à l'armée en Israël », avec des photographies, portraits de plusieurs personnes qui ont refusé l'armée en Israël. Et quand on dit plusieurs, ils en sont nombreux et nombreuses. Le livre donc a été édité par Libertalia. Nous refusons dire non à l'armée en Israël. Nous vous conseillerons vivement à vous procurer cet album photo témoignage histoire quoi de histoire sur ce qui se passe actuellement en Israël et du côté de ceux et celles qui ont décidé de ne pas faire la guerre. Donc nous avons quand même fait le tour du monde en 80 guerres. Contre le réarmement, le secrétaire général du Parti des travailleurs belges, le PTB, a réalisé une percée aux élections fédérales en 2024. Peter Mertens a présenté l'analyse de sa formation politique face à la perspective d'un grand réarmement européen pour affronter la menace russe. Contrairement au discours dominant, il a rappelé que préparer la paix n'implique pas nécessairement de faire la guerre. Le retour du militarisme allemand, la course aux armements en Europe et l'agressivité délibérée de Washington, tout concourt à l'escalade, mais ce sont toujours ceux d'en bas qui en paient le prix. Les cours des actions des géants de l'armement s'envolent, BAE Systems, Dassault, Leonardo, Saab ou Thales en caisse. Pour les travailleurs, rien n'est pire qu'une économie de guerre, rappelle à juste titre Sophie Binet, secrétaire de la CGT en France. L'incapacité des États européens en 3 ans de guerre, a engagé une démarche diplomatique sérieuse en vue d'en cesser le feu, se fait sentir. Le mélange Allemagne-chauvinisme-militarisme est une mauvaise idée. L'adage de la fin de l'Empire romain « Si vi pacem parabellum » n'a pas beaucoup résisté à leur effondrement. La réalité est pourtant simple. Et si vous voulez la guerre, préparez la guerre. Si vous voulez la paix, préparez la paix. Quel mythe de croire que l'industrie militaire crée beaucoup d'emplois, bien au contraire. 1 euro investi dans les hôpitaux génère 2 à 5 fois plus d'emplois que s'il est placé dans les armes. En matière d'efficacité pour l'emploi, la défense n'arrive qu'en 70e position sur 100 secteurs. Plusieurs études démontrent aussi l'impact négatif de tels investissements. Nous apprend le Monde diplomatique du mois de mai. Friedrich Merz, chancelier fédéral depuis le 6 mai, a fait la promesse de rendre la Bundeswehr l'armée la plus puissante d'Europe devant la Pologne et la France. À Mayotte, rien pour les salaires, tout pour l'armée. Un habitant sur 3 vit toujours dans un bidonville. La majorité de la population manque tout. Eau potable, électricité, salle de classe, école, hôpitaux. Et aussi de l'agrandissement du port de marchandises. Le SMIC mahorais est de 1 362 € brut par mois contre 1 800 € dans les autres départements français. Manuel Valls, de passage à Mamoudzou, avait annoncé le 12 mars à la commission de la défense la décision du gouvernement de construire une deuxième base navale en plus de celle de Dzaoudzi. 13 milliards d'euros seront investis prochainement dans l'île pour la sécurité du territoire. Essai en mer d'un patrouilleur, mise à l'eau à Saint-Malo, armé à la Sokaranam de Boulogne-sur-Mer, le patrouilleur Auguste Benebio a rejoint la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit du premier d'une série de patrouilleurs outre-mer, long de 79,90 mètres large, de 11,80 mètres, qui remplace les anciens modèles de la marine nationale. Trump en Arabie. Le 13 mai, lors de son voyage en Arabie Saoudite, Trump a signé un accord d'armement de 142 milliards. Le 3 février 2025, la ministre des Sports et de la Jeunesse déclarait « On n'a pas de moyens de le faire financièrement » concernant le SNU. Qu'à cela ne tienne, Clément Beaune, fidèle de Macron, propose le 5 mai un service civil ou militaire obligatoire. 2 mois après sa nomination, ce nouveau patron de France Stratégie et du Haut Commissariat au Plan a présenté une note flash visant à esquisser et à chiffrer différentes solutions pour alourdir les obligations des jeunes Français. Le service national universel, promesse électorale de Macron premier, n'a jamais, depuis sa création en 2019, atteint son objectif de sensibiliser la jeunesse française. 3 scénarios sont donc proposés. Vitaminer le SNU, qui reste sur une base volontaire, en recrutant 200 000 jeunes de 15 à 17 ans, soit 500 plus que le SNU actuel, et en y détournant 800 000 mineurs, soit 25% d'une classe d'âge. Coût estimé à 600 millions contre 160 aujourd'hui. 2e option, service civil universel, obligatoire pour tous les jeunes d'une tranche d'âge à déterminer, de 15 à 17 ans ou 18 à 25 ans. Pour les mineurs, se pose la question du moment pour effectuer ce service, hors temps scolaire ou non. L'obligation pose des questions de constitutionnalité, coût estimé 17 milliards pour une période de 12 jours réservée aux mineurs, plus de 3,5 milliards si les majeurs sont ciblés. 3e option, service militaire de 6 mois dans les locaux de l'armée qui aurait du mal à cibler plus de 70 000 personnes par an. D'autres propositions hybrides sont faites pour aller vers un service civil ou militaire obligatoire avec des variantes. Comme un séjour de 12 jours à l'ensemble d'une classe d'âge suivi d'un service civil de 5 mois et d'un service militaire de 3 mois, coût estimé à 5 milliards hors infrastructure. Le SNU inutile a toujours été contesté en 6 ans d'existence. Il n'a jamais pu être réalisé concrètement. De ce projet sans définition, mais obligatoirement et très cher. Réserviste en double, d'ici à 2030, Sébastien Lecornu veut atteindre le seuil de 80 000 réservistes pour l'armée française, au lieu de 45 000 actuellement, qui coûte 220 millions. L'armée d'active représente 210 000 soldats, 65 000 civils et 316 000 retraités ou pensionnés, payés par le logiciel Louvois pour près de 8 milliards. Concernant les nouvelles du front, le Bureau européen pour l'objection de conscience. Le vendredi 6 juin 2025, en cette période de militarisation mondiale, le Bureau européen pour l'objection de conscience a publié son rapport annuel sur l'objection de conscience aux services militaires en Europe, passant en revue les principaux développements liés à l'objection de conscience et à la conscription sur le continent en 2024. De la relance de la conscription en Europe aux effets dévastateurs des guerres en cours, la protection des objecteurs de conscience est plus urgente que jamais. Le rapport de cette année fait état de violations persistantes des droits des objecteurs de conscience, en particulier en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, en Turquie, à Chypre et en Grèce. Et les nouvelles menaces au droit à l'objection dans le cadre du Conseil de l'Europe. L'objection de conscience au service militaire est un droit de l'homme fondamental qui doit être protégé. Elle est inhérente au droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience et de religion énoncé à l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme, à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, tel que défini par le Forum européen de la jeunesse et la Déclaration des États-Unis, des Nations Unies, sur les droits de l'homme, le droit des jeunes est un droit de la jeunesse. Le rapport se termine par des recommandations concrètes, la pleine reconnaissance du droit fondamental à l'objection de conscience au service militaire dans tous les pays, un véritable service civil de remplacement, l'asile et la protection de tous les objecteurs en danger, d'être persécutés ou forcés de participer à des conflits armés et l'alignement des lois nationales sur les normes internationales relatives aux droits de l'homme. En publiant ce rapport, le Bureau européen pour l'objection de conscience réaffirme que nous sommes également solidaires de tous les prisonniers d'opinion, les résistants non violents à la guerre et à la militarisation dans le monde, y compris en Israël, Palestine, au Myanmar, au Soudan, en Colombie et ailleurs qui n'entraient pas dans le cadre géographique du présent rapport. Concernant la résistance en Russie, un anarchiste russe a été condamné à 16 ans de prison pour une action antimilitariste. Il reste en Russie des résistants qui s'opposent à la dictature et à la guerre. L'anarchiste russe Alexei Roskov est l'un d'entre eux. Les guerres ne sont pas seulement des massacres entre peuples, ce sont aussi des opérations de maintien de l'ordre à l'intérieur même des pays qui les mènent. Depuis l'invasion qu'il a lancée en Ukraine, Poutine profite de la guerre pour anéantir toute contestation en Russie et renforcer son pouvoir. Il a arrêté des milliers d'opposants, accentué son contrôle sur les médias, mis au pas les oligarques, liquidé son concurrent Alexei Navalny et s'est même débarrassé d'un de ses champs de guerre devenu gênant, le chef des milices fascistes Yevgeny Prigojine. Poutine s'est également offert une réélection à 88% des voix face à des candidats fantoches. L'opposition même la plus timorée est désormais quasi inaudible. Il reste pourtant en Russie des femmes et des hommes qui s'opposent concrètement et courageusement à la dictature et à la guerre. L'anarchiste russe Alexei Roskov, âgé de 27 ans, est l'un d'entre eux. Le 11 mars 2022, après l'assaut contre l'Ukraine, il avait mené une attaque incendiaire contre un bureau de recrutement de l'armée russe. Il explique ainsi son acte. « J'ai juste compris que je ne pouvais pas rester indifférent. Chaque guerre signifie la mort. Pour les gens ordinaires et simples. La guerre, au XXIe siècle, me semble quelque chose de complètement étranger. Surtout avec des raisons si absurdes que celles qu'ils ont données. » Alexis ajoute « Je me trouve profondément bouleversé que des gens meurent, des civils, mais aussi ceux qui ne voulaient pas se battre, mais qui ont été enrôlés. Je voulais faire entendre ma voix, inciter les gens à lutter contre cette guerre. Je voulais influencer la situation, agir pour arrêter ou au moins affaiblir l'armée russe. Et c'est pourquoi j'ai incendié le bureau d'enrôlement militaire. Depuis 3 ans, des dizaines d'actes de sabotage visent l'armée et des bâtiments symboliques en Russie, en particulier les bureaux de recrutement militaire. Initialement, Alexei Roskov a purgé 6 mois de détention préventive avant d'être libéré avec une interdiction de sortir de Russie. Il avait réussi à s'échapper au Kyrgyzstan et voulait essayer de se réfugier en Union européenne. Mais la police politique russe, le FSB, héritière du KGB, était à ses trousses. Alexei a été enlevé au Kyrgyzstan et ramené en Russie. Il a été torturé et mis en prison. Cette fois-ci, la justice a requalifié son action antimilitariste de 2022 en acte terroriste. Le jeune homme est accusé aussi d'apologie du terrorisme et de diffuser des fausses informations sur l'armée russe suite à une entrevue qu'il a donnée. Il vient de recevoir sa sentence par un tribunal militaire, 16 ans de prison. Une peine identique a été prononcée contre un autre militant anarchiste, Roman Chedov, originaire de la région de Rostov, qui avait lui aussi incendié un bâtiment de recrutement militaire. Après avoir été condamné, il s'est suicidé. Alexis et ses camarades montrent la voie juste. Aucune guerre n'est possible sans infrastructures, sans enrôlement, sans usines d'armes et fabricants de consentement. Si les chaînes logistiques qui fournissent les munitions et les centres de recrutement de soldats sont à l'arrêt, aucun massacre, aucune invasion, aucun génocide n'est possible pour les puissants de ce monde. Souvenons-nous d'Alexis et soutenons-lui ainsi que tous les antimilitaristes autour de la planète.
Ce père nourricier.
Ah, il y en a encore. On va leur demander de se dénoncer ce soir. Aujourd'hui, ça tombe bien, le 1er novembre, nous sommes la Saint.
Tous,
c'est ça? À la Toussaint, on est la Saint quoi?
La Saint Tous, c'est en Berlin.
D'accord, ok. Ça va être dur, oui, effectivement. À la Sainte, tous les saints qui n'ont pas été canonisés.
Pour la Saint-Loup,
La Saint-Loup. On va dire les bureaux, c'est lourd.
Mais du coup, si on dirait retour.
À la Saint-Loup, je souhaite au tout, une joyeuse fête. Aux noces de ma sœur, tous mes autres bonheurs, je me creuse pas la tête. Aux amis en deuil, je présente l'arme à l'œil, mes condoléances. À chaque événement, son petit ou grand, mot de circonstance. Depuis quelque temps, régulièrement, je reste en carafe. Je sais pas quoi dire, et comme je sais pas mentir, ben je fais des gaffes. Dites-moi s'il vous plaît, par pitié, quelle est la bonne procédure quand de jeunes parents vous présentent fièrement leur progéniture, je sais pas quoi dire, et comme je sais pas mentir, mais je sais pas quoi dire, et comme je sais pas mentir, mais je sais pas quoi dire, et comme je sais pas mentir, mais... Du coup, je fais des gaffes. Devant moi gigote dans une couche culotte, un mouchoir informe. Avec pas de cheveux, plein de veines, tout bleu et des yeux énormes. Autour du berceau, papa, maman, gâteau, câline le mioche. Me demande mon avis, ça ressemble à E.T. en un peu moins moche. Je sais pas quoi dire, et comme je sais pas mentir, bah je sais pas quoi dire, et comme je sais pas mentir, bah je sais pas quoi dire, et comme je sais pas mentir, bah du coup, c'est des gars. Si j'avais hasard, c'est-à-dire sans prendre garde.
Oh, elle est mignonne. Elle a un petit air de Daniel Gilbert, on a peu moins con.
Fixé, les lèvres pincées, la mère me répond. Tu vois le truc qui pendouille, ce sont des couilles. C'est un petit garçon. Il est mignon.
C'est pas quoi dire que c'est pas bon. Je fais des gaffes.
Moins risqué si je me lance dans le jeu des comparatifs. Quand je change la tête, sérieux, je décrète l'air affirmatif. Ah non, pas douter, ce petit bébé a les yeux de son père. Ce dernier me répond, c'est une adoption. Tu l'as payé cher. Comme je sais pas mentir, du coup je fais des gaffes. L'autre jour un vieux pote me présente Charlotte, sa petite dernière, qui au lieu de me saluer préférait le tété.
N'allez surtout pas chez un chirurgien. Bien pour vous.
Et cette cacophonie, c'était les blaireaux autour du berceau. L'Océan Viking, bateau de l'association SOS Méditerranée, vient de fêter ses 10 ans contre vent et marée. 10 ans, l'âge que j'avais il y a 6 fois 10 ans et quelques poussières de secondes. 10 ans, cette porte brume entre l'enfance et l'adolescence où l'on commence à penser à demain. D'où l'insouciance cède à la place la conscience du monde qui nous entoure. L'âge où l'on est confronté à l'autre, 10 ans, le je prends la place de jeu, la vie devient plus sérieuse. 10 ans, c'est à peine l'âge de ces nageurs improvisés, recueillis à temps par l'océan viking. C'est l'âge que n'attendra jamais une grande partie de leurs contemporains à ragaz arrachés à leurs racines, harassés, assassinés, traversant, tentant de traverser ce même univers, cette même Méditerranée. Car ces sauveteurs, ces héros de la vie, ces héros de la mer, de l'humanitaire, de l'humanité, ne sont que des humains, un terme trop galvaudé, qu'elle ne mérite pas la plupart de ceux auxquels on attribue ce substantif, substantiel, de ceux qui s'emparent, qui le déparent. Et dont parle bien plus que ces vrais héros de la paix, de l'amour, qui ne sont, elles et eux, que trop peu nombreux dans ce gigantisme, dans ce temps fini, face à l'immensité de la grande cité. J'irai avancer face à ce qu'on ne peut s'empêcher d'appeler la folie, c'est-à-dire le contraire de la raison, le contraire de la fraternité, de la delphité, d'autres mots galvaudés que certains utilisent comme un passeport, sans même en connaître et en reconnaître le sens. 10 ans, c'est bien d'avoir vécu 10 ans, de tenir le cap, le pari de sauver un maximum de gens, d'enfants, de moins de 10 ans, de bébés, de parents, de vieillards, de désespérés, d'abandonnés par le monde, par une trop grande partie de ce monde à la pensée malade. Ce monde sans pensée, ce monde au cerveau encrassé par d'immondes idées, immondices, mondaines, faridondaines, farimboles. Savoir que dans ce même monde se côtoient ces sauveteurs d'enfants, des héros humanitaires et des empêcheurs de repêcher les proies de la mer, de la mort, de la misère. Le monde en un fils viserait-il en deux? Deux hémisphères non géographiques mais éthiques, deux hémifrères, deux frères ennemis, qui, tels deux jumeaux, se ressemblent trait pour trait de l'extérieur et sont à l'intérieur si opposés. Jekyll et Hyde, l'un qui fait le bien, l'autre qui laisse faire le mal et qui s'en fout. L'un qui réagit quand une grande part de l'humanité se noie en appelant au secours, l'autre qui se bouche les oreilles, voire qui condamne ignoblement ses cris qui dérangent la sérénitude. Certi, dans ses certitudes, le monde serait divisé en deux, chaque partie se divisant à son tour, mais cette première scission, qui est la plus grave, une première partie dont nous sommes, regarde l'univers dans sa globalité, regarde l'habitat de cet univers comme un égal, comme un humain, comme un frère, une sœur, qualité qui s'impose de toute leur évidence. En face en négative, l'autre partie du monde considère que certains pays, certaines catégories de gens n'ont pas bénéficié des mêmes atouts que les autres, qu'eux-mêmes en l'occurrence. Ceux qui s'appellent patriotes, ceux qui s'appellent nationaux, ceux qui s'appellent on est chez nous. Ceux qui regardent la couleur de la peau de l'autre avant d'ouvrir leur porte, leur cœur, leurs bras, ceux-là ne lèvent pas le gentil doigt pour des associations comme celle qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Ceux-là considèrent ses sauveteurs, ses héros, ses êtres humains comme les délinquants, tout simplement. De la même manière que des soldats israéliens ou pas, la stratégie est partout, la même. Apprennent à considérer le voisin en péril qu'on appelle une proie comme des non-humains, sinon ce serait trop dur de les éliminer, de les génocider, qu'ils aient 10 ans ou 50, un an ou 5. Ces deux parties du monde, toujours en guerre, en conflit, en opposition, sont-elles réconciliables, conciliables, laquelle pourra entraîner l'autre, l'une vers plus d'humanité, l'autre vers plus de chaos, plus de terreur, plus de guerre, laquelle aura le plus d'influence sur la marche du monde. On a beau être optimiste, dit au petit soin, et croire en l'homme, sinon quoi ? En l'humain pour englober la part féminine de cette famille animale, laquelle part féminine à ce jour n'a pas prouvé, bien au contraire, dans son exercice de pouvoir, une meilleure gestion de la misère, de l'injustice. La fonction crée l'organe et l'orgueil en découlant. On a beau, dit je, être optimiste, il faut être solide pour y croire. S'attacher à la paix, à l'idée d'un monde sinon parfait, en tout cas plus vivable, plus équilibré, plus équitable. Dans quel horizon se posent nos yeux et nos cœurs ? Et ce ne sont pas les associations comme SOS Méditerranée qui fêtent ses 10 ans, comme Amnesty International, comme l'IRG qui s'imposent au monde, qui imposent leur évidence, leur vérité, leur nécessité, toujours battue en nombre, en moyen, en extrême, par tous ces groupuscules qui terrorisent à l'outrance et ailleurs, à outrance et ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a les États, les nations, les capitaux et les armées. Partout, l'armée sème la ruine, le crime, l'horreur et tous ces malfaiteurs, ces malfrats, ces malades qui se retrouvent au Bourget pour se montrer leur joujou. Avec ou sans Israël, leurs projets mortifères sont les mêmes. Tous ces tueurs en série, tous ceux qui poussent un jour des familles désespérées avec des gosses de 10 ans au moins à tenter l'impossible traversée, les périples d'un monde à l'autre, d'une idée à l'autre, de la guerre à la paix, dépend du soutien que chacun, chacune apporte à l'armée. Que choisir ? Continuer d'avancer vers le chaos, continuer d'enfoncer dans les grands fonds des innocents désespérés, continuer de pousser des enfants vers la mort, ou accepter l'idée d'abolir des armées ? Abolir l'armée, c'est non simplement possible, c'est vital, c'est urgent. Yves Lecard. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui, qui a été un peu brève, courte, comme cet été, assez paisible et chaleureux. Nous serons là encore la semaine prochaine pour continuer à animer notre émission antimilitariste sur Radio Libertaire. N'hésitez pas à contacter l'Union Pacifiste si vous vous intéressez au journal, aux informations, ou juste à une adhésion à l'association pour continuer à soutenir les publications et les actions antimilitaristes qui sont menées. Pour contacter l'Union Pacifiste, ou bien vous écrivez à unionpacifiste@riseup.net. Vous pouvez consulter le site, bien entendu, www.unionpacifiste.org, ou bien venir à la permanence au local les vendredis en après-midi, des 14h à 17h, au 66 boulevard Vincent Auriol, dans le 13e arrondissement de Paris. Pour vous abonner au journal aussi, vous pouvez le faire directement en envoyant votre adhésion, soit en ligne à travers le site de l'Union Pacifiste, soit en envoyant une lettre à cette adresse, donc Union Pacifiste de France, 66 boulevard Vincent Auriol, 75 13 Paris. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.
Il était parmi les abeilles un enfant de miel et d'orgeat. Chante l'oiseau dessous la treille. Voici fleurir le vin muscat. Sont venus quelques diplomates et l'Orphéon des militaires sur un vaisseau plein de pirates. Et l'on chantait, c'était la guerre. Hymne brun des gorges cuivrées, fracas du fer et
et des poitrines. Dans l'ombre austère des cyprès se sont cachés les mandolines.